franceinter.fr.
Ah, les saines lectures de la presse française. Bonjour Amélie Perrier.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Des histoires de famille aujourd'hui.
Et pour commencer, celle particulièrement sensible de Vincent Lambert. L'éditorial d'Étienne de Montetti dans le Figaro revient sur la décision hier de l'hôpital de Reims de ne pas décider du sort de l'homme en état végétatif depuis de nombreuses années. L'équipe du CHU évoque notamment des pressions extérieures l'empêchant de se décider dans la sérénité. Elle souhaite s'en remettre au ministère de la Santé. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans ce tragique feuilleton, écrit Étienne de Montetti, où, placé au beau milieu d'un affrontement familial, aggravé par un tohu-bohu médiatique, des hommes et des femmes de bonne volonté tentent de trouver la porte étroite. Que faire raisonnablement d'un être vivant gravement handicapé et en état de conscience très diminué? Et l'éditorialiste regrette, Vincent Lambert est devenu un symbole. Justement, le Figaro a interrogé le député de l'Ain, Xavier Breton, du parti Les Républicains. Il affirme, ces déchirements familiaux s'expriment depuis 2 ans sous les yeux de l'opinion. Il est temps maintenant de faire appel à la raison, de se recentrer sur les intérêts de ce jeune homme et rien que les siens, en dehors de tout préjugé et de toute idéologie sans militantisme sur son dos. Oui, mais voilà, la guerre familiale au-dessus du lit de Vincent Lambert a bel et bien tourné au conflit idéologique. Le journal L'Humanité raconte ce matin que depuis plusieurs semaines, les milieux catholiques traditionnalistes, proches des parents de Vincent Lambert, eux-mêmes membres de la fraternité Saint Pie X, s'opposent de manière de plus en plus menaçante à l'arrêt des soins. Au-delà de la manifestation qui a réuni hier devant le CHU de Reims une trentaine de croyants égrenant leur chapelet, lit-on dans l'Huma, des initiatives plus radicales ont vu le jour, notamment sur les réseaux sociaux et les sites intégristes comme Riposte catholique ou Salon Beige. Parmi les suggestions, enlever l'équipe médicale et un ou plusieurs membres de la Cour européenne des droits de l'homme dans un endroit secret, sans alimentation ni hydratation, des menaces que les médecins ont prises très au sérieux. Depuis le début, l'on présente les parents du malade comme des catholiques, imputant leur volonté de garder leur fils en vie à leur seule foi religieuse. Là aussi, une approche finalement très idéologique, approche défendue par Laurent Geoffrin dans Libération. Il pose la question dès la première ligne de son édito, l'intégrisme l'emportera-t-il sur la loi française? On rappellera à ce stade, écrit Laurent Geoffrin, que l'arrêt des soins, s'il était finalement choisi par la communauté médicale, respecterait la loi Leonetti et serait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais les médecins font allusion aux menaces physiques proférées par un certain nombre de militants extrémistes à leur encontre. Et le directeur de Libération conclut « Voilà un cas où l'intégrisme d'origine chrétienne a réussi par une forme de terrorisme verbal » à piétiner les principes laïcs.
Une autre histoire de famille à lire dans Libération. Cette fois, c'est tout un pays qui adopte un chef de l'État étranger.
Oui, le président américain Barack Obama se rend aujourd'hui au Kenya, terre natale de son père, qu'il n'a quasiment pas connu, précise le journal. Un retour à la faveur de la levée des charges contre le président kényan, Uhuru Kenyatta. Il était poursuivi par la Cour pénale internationale. Et un rapprochement intéressé, car le Kenya et les États-Unis, explique un spécialiste, ont un problème commun, le terrorisme. Le pays, puissance économique régionale, vit sous la menace des Chebabs, groupe terroriste né en Somalie, rallié à Al-Qaïda et qui semble se rapprocher de plus en plus de l'État islamique. Dans les rues de Nairobi, on témoigne son enthousiasme devant le retour du fils prodigue, écrit l'envoyé spécial de Libération dans la capitale kényane. Un ancien affirme, le président américain est la seule personnalité qui rassemble les Kenyans. Il unifie les 40 groupes ethniques de notre pays. Et le fils prodigue, comme l'écrit Sophie Bouillon, ne revient pas non plus sur les terres paternelles sans arrière-pensée commerciale. Pour contrer l'expansion économique de l'Inde ou de la Chine sur tout le continent, Nairobi est une porte d'entrée obligatoire pour les États-Unis.
Et puis dans la presse également ce matin, une histoire de famille assez incroyable, l'histoire d'un fils qui raconte son père. Le père, c'est le criminel Pablo Escobar. C'est à découvrir dans le magazine Society.
Un récit recueilli par Léo Ruiz à Buenos Aires, en Argentine. C'est là qu'est réfugié le fils d'un des plus célèbres narcotrafiquants. Il y vit sous une autre identité, mais publie aujourd'hui, avec son véritable nom, un livre, Pablo Escobar, mon père. Et de raconter un autre monde, celui d'un richissime patron d'un cartel de la drogue drogue, fou de ses enfants. Juste après la naissance de son fils, lit-on, Pablo Escobar achète un terrain de 3000 hectares dans la localité de Puerto Triunfo, en Colombie, et y construit sa folle demeure, 10 maisons de luxe, des piscines, une piste d'atterrissage, un héliport, 1700 employés, 21 lacs, 1500 espèces d'animaux. J'avais 8 ans et 30 motos, se confie le fils. Un jour, sa sœur, la petite Manuela, demande une licorne. Pablo Escobar achète un cheval blanc et lui fait implanter des ailes et une corne en plastique. Certains ont dit que le cheval en était mort, mais c'est faux. Mon père, avoue le fils, était cruel avec les hommes, mais pas avec les animaux. Il les adorait. Le fils d'Escobar se souvient d'une enfance heureuse, même s'il était bien conscient qu'il était une cible privilégiée. J'ai échappé à 12 tentatives d'enlèvement. Le 3 janvier 88, on survit miraculeusement à un attentat, 700 kilos de dynamite. Et à partir de là, le récit du fils du narcotrafiquant diffère de celui des anciens membres du cartel. Eux assurent que le fils du patron met les mains dans le cambouis. Lui se pose en victime de première classe, écrit le reporter de Society. Avec l'exil au Mozambique, au Brésil, puis en Argentine, et le changement d'identité. Jusqu'en 99, où après une tentative d'escroquerie de la part d'un comptable, la famille Escobar voit son nom s'afficher dans la presse. Alors autant jeter le masque, dit l'auteur du papier. Pour se relancer, Sébastien décide d'utiliser l'image de son père en lançant une marque de vêtements, des t-shirts à 90$ et aujourd'hui ce livre autobiographique dont il espère vendre des millions d'exemplaires. Et le reportage se termine par cette citation du fils Escobar, faire du bien en racontant ce qui a fait beaucoup de mal, du moins la partie qui l'arrange, conclut Society. Alors si aujourd'hui vous redoutez des vacances en famille, pensez que la vôtre n'est peut-être pas la pire.
Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Amélie Perrier, 8h38 sur France Inter. Baudelaire, la littérature, nos invités, c'est tout de suite.